gourmette.
Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une fille gourmande? Les gourmettes?
On m'a dit gourmande, mais c'est un peu sexuel, un peu, ça fait un peu bizarre.
Et c'est souvent des hommes un peu vieux qui me disent « elle est gourmande ».
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ces mots, qu'ils existent ou pas. Telle est visiblement la nouvelle ligne éditoriale fixée par ce génie qui nous tient lieu de rédacteur en chef, Cyril Lacarrière, génie qui nous giflera encore dans quelques instants durant un doux sasseur d'anthologie, à côté duquel même la pyramide de Ponzi de Bernard Madoff fait figure de petite arnaque. Mais donc, cet après-midi, Cyril a décidé qu'on allait zoomer non pas sur un mot dans l'air du temps, ce qui est notre cahier des charges, même pas d'ailleurs sur un mot pas dans l'air du temps mais qui l'arrangerait. Non, cet après-midi, pour la première fois, nous allons zoomer sur un mot qui n'existe pas, ou alors seulement dans le livre de notre invité. Ce mot, c'est « gourmette ». Un mot en plus source de confusion, car Quentin a cru qu'on allait zoomer sur les gourmettes comme celle que sa tatie Jacqueline lui a offert pour ses 18 ans, une plaquée or 8 carats qu'elle avait achetée au manège à bijoux du Leclerc d'Alençon.
Non,
Quentin, désolé de décevoir le dandy en vous, les gourmettes sur lesquelles nous allons zoomer ne se portent pas au poignet, elles sont le féminin de gourmet. Pourquoi d'ailleurs ne parle-t-on jamais de gourmettes? Pourquoi historiquement les femmes ont été de bonnes cuisinières et les hommes de grands chefs? Pourquoi y a-t-il encore en 2025 si peu de critiques gastronomiques femmes? Zoom aujourd'hui sur l'effacement des femmes dans le milieu de la gastronomie. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui perdure? Le féminisme doit-il s'emparer aussi de la gastronomie? Et surtout, sous ses airs de glandeur tirant à la courte paille les sujets de cette émission, Cyril Lacarrière aurait-il en fait mis le doigt sur une question passionnante aujourd'hui? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Lorraine Malka.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi, Lorraine. Vous êtes journaliste, podcasteuse, on peut vous lire dans Cosette et vous voir sur la chaîne YouTube de Jamy, les Épicurieux. Et puis vous avez écrit et co-réalisé le documentaire aussi La France au fourneau, participez également à des recueils féministes comme Ceci est mon corps. Et là, vous revenez avec un nouveau livre, Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès. C'est aux éditions Les Pérégrines, un livre dans lequel vous posez cette question. Qui a tué la gourmandise féminine? Vous allez nous raconter. Juste le temps de vous présenter mes fidèles commis. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour
à tous.
Bonjour.
Présenté sur le générique de Top Chef.
Évidemment,
ouais, c'est classe
faire,
ça.
Pour faire plaisir. À vos côtés, Lorraine Malka, son féminisme n'a pas encore investi le champ culinaire. Mais ça ne serait tardé. Ça ne serait tardé puisque, sauf nouvelle péripétie avec vos amis de Chronopost, elle devrait recevoir incessamment sous peu un magnifique air fryer.
Je l'ai toujours
qui
pas,
lui
ça
permettra
me rend...
de cuisiner enfin autre chose que du vin blanc. Ah. Ça vous changera un peu. Ça changera peut-être
mais
vos invités.
Je cuisine des trucs, hein.
On n'est pas à l'abri qu'elle mette du vin blanc.
Je m'améliore.
Mais vous mettez quoi, par exemple?
Bah, des pâtes.
Très bien,
avec,
des pâtes.
Avec on de la sauce.
Des pâtes avec de la sauce au pesto, bien sûr, évidemment. Évidemment.
Non, mais je fais des recettes. Vraiment... Bon, bref. Oh,
ah oui, oui.
Vous m'énervez.
Non, non. C'est... Mais c'est bien d'en savoir plus sur vous. C'est à ça que sert ce petit sommaire. Bah non, chaque
vous
après-midi, vous nous indiquez l'autre personne.
La chef française la plus étoilée au monde, pas moi, du coup, vous en doutez. Une chef autodidacte, malgré son héritage culinaire et qui a dû faire face au sexisme du milieu pour se faire une place.
Alors, c'est du suspense, on n'a pas le droit de dire de qui on parle?
Bah, si, vous pouvez le dire.
Ah, la merveilleuse Anne-Sophie Pic,
voilà.
On est toujours excellemment bien reçue chez elle. Face à vous, Lorraine,
c'est fou, c'est fou.
Il n'aime pas du tout la tournure que prend cette émission. Le féminisme, ça va faire la 300e émission qu'on consacre au féminisme. Est-ce qu'à un moment, on va revenir au vrai sujet qui intéresse les Français, les gourmettes? En plus, le manège à bijoux, il nous aurait certainement envoyé des trucs. Non, Quentin, c'est bien les gourmettes, les femmes gourmets, notre sujet du jour. D'ailleurs, vous le savez, vous avez fait un micro-trottoir là-dessus,
ouais,
non?
Ça vous irait bien, la gourmette? Vous commencez à avoir l'âge.
Oui, c'est bizarre que vous en avez pas.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire l'âge de porter une gourmette. Oh. C'est pour les communions, les gourmettes.
La quarantaine.
Vous voulez dire que je rajeunis?
Non, mais non. Ah, peut-être.
Ah, c'est, voilà, la bonne réponse.
Un compliment déguisé. J'en ai rencontré des gourmettes. Gourmettes du dimanche, gourmettes des défilés, gourmettes au sein d'une équipe d'un restaurant. Un micro-trottoir complètement à la rue dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, les gourmettes au cinéma, elles ont crevé l'écran en montant des mayonnaises. Je vous pitcherai des films où la bouffe est centrale et où la star est une femme. À vous de retrouver soit le film, soit l'actrice. Un beau moment de gai savoir en perspective. Juste avant 17h, Rosa Burstein nous rejoindra. Mais d'abord, Lorraine Malka, même Manon n'y avait pas pensé. Il y a donc un lien entre la nourriture et le féminisme.
Alors, comme vous le disiez en introduction, il y a un lien qui peut-être n'existe que dans mon livre et dans les livres de quelques autres qui se sont penchés sur le sujet. Mais une fois qu'on a mis les lunettes des mangeuses, je pense qu'on ne voit plus que ça.
C'est, bah, le cœur du truc, c'est en fait ce truc incroyable qui fait que la plupart des femmes font à manger, mais
sont
très
assignées
longtemps,
à cette assignées tâche à ça. Depuis très longtemps.
Et par contre, très longtemps, on s'est dit, les hommes sont des grands chefs. Quand il s'agit de faire la cuisine, la grande cuisine, c'est des hommes.
On différencie toujours la popote du quotidien, la popote féminine, et la cuisine des grands chefs, des créateurs, qui est celle des hommes.
Lui, il ne sait pas qui a tué la gourmandise féminine, il sait qui a tué la gourmandise tout court. Selon son enquête réalisée sur de longs mois, le coupable serait la cantine de Radio France. Hachis parmentiers mal décongelés, frites molles, pavés de rumsteak impropres à la consommation, ou encore l'invraisemblable purée de légumes de jeudi dernier. Cyril a déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il demande réparation, un combat que je partage avec lui, surtout depuis qu'on m'a refusé d'avoir l'autre jour, non pas une, mais deux merguez. Alors ça,
bah
vraiment,
oui,
je ne m'en remets pas.
Alors que
je
moi, j'en
m'en
ai eu deux.
Remets pas. Alors que vous, justement, vous en avez eu deux.
En revanche, on peut avoir que des merguez, si vous voulez, à la cantine.
Vous montrerez comment faire. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes. Bonjour à tous, bonjour à la cantoche.
Évidemment, on les embrasse quand même. Racontez-nous, Cyril, je crois que vous avez beaucoup à dire aujourd'hui, cette notion de gourmette, d'où ça sort?
Mais que vois-je, page 115 du livre de notre invité, mangeuse, hein, d'où ça sort, là, sous mes yeux, clé en main, keys in hand. Le problème... Le problème, c'est que 11 pages, c'est un peu long pour ce petit billet.
Ah oui, alors,
que faire? Il ne faut jamais, au grand jamais, baisser les bras, remettre votre numéro à l'an prochain et renoncer à une belle opportunité de briller, hein? Non. Il faut, avec l'esprit d'initiative de l'homme vaillant, adapter votre show à la tournure des événements.
Adapter votre show. Et c'est ainsi qu'avec toute l'habileté, Monsieur Manhattan, effectivement, toute l'habileté de l'homme vaillant, je me tourne vers vous, Lorraine Malka. Pourquoi ce mot gourmette?
Alors, effectivement, vous l'avez dit en introduction, Mathieu, quand on regarde dans le dictionnaire à gourmette, on trouve une chaînette, un bracelet en maille. Et le mot gourmet, aujourd'hui, n'existe qu'au masculin. Et ce n'est pas le cas, évidemment, de gourmand. Il y a le féminin gourmande ou de glouton. Il y a le féminin gloutonne. Un gourmet, c'est plus chic qu'une gloutonne ou un glouton, on le sait. Donc être un gourmet, c'est vraiment comme un graal, en fait. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aspire à devenir quand on est gourmand, quand on aime manger. Donc moi, j'ai conçu ce livre un peu mangeuse comme une enquête policière. Je me suis demandé comment les gourmettes qui ont existé dans le passé avaient disparu des dictionnaires et comment les femmes ont été privées de ce statut très très convoité qui est celui des gourmets gourmettes.
Et justement, quelles sont les premières ou la première gourmette?
Alors, en fait, bon, j'ai dit que le mot gourmet n'existait qu'au masculin, mais ce qui est drôle, enfin, c'est pas très drôle, c'est qu'au départ, c'était le contraire. Le gourmet était une femme. Au XIVe siècle, le mot, c'était, on disait en ancien français, groumet, et c'était une groumette. Ça n'existait qu'au féminin. C'est une courtière en vin, et en fait, un siècle après, la groumette disparaît, et elle est remplacée par le groumet. Donc, officiellement, les groumettes, ou les gourmettes, c'est-à-dire celles qui acquièrent des connaissances dans l'art de cuisiner et de manger et de parler de cuisine, sont sans arrêt effacées de l'histoire. En fait, quand on prête l'oreille et qu'on regarde un peu l'histoire cachée, on en trouve dès l'Antiquité.
Voilà, un doux ça sort parfaitement exécuté.
Mais vous ne travaillez plus.
Merci. Merci à Lorraine Malka pour ce featuring. On a maintenant une heure pour tout comprendre à ces mangeuses trop longtemps effacées d'histoire.
C'est plutôt toi qui as fait un featuring dans la chronique de notre invité.
Ah oui, c'est clair.
Ouais, c'est ça. Imaginez, retiré de ta paye, je le signale. Hein, c'est quand même honteux. Merci quand même, Cyril. Lorraine Malka, merci surtout à vous. Alors, on le voit souvent dans Zoom Zoom Zen, on en parle. La misogynie, elle existe dans la plupart des milieux, aujourd'hui encore malheureusement, mais là ça semble être assez paradoxal, la cuisine, parce qu'on dit aux femmes, enfin les machos purs et durs disent aux femmes de rester au fourneau, et en même temps on les invisibilise aussi au fourneau, c'est quand même assez incroyable.
Ben oui, je vous le fais pas dire. En fait, c'est vraiment une histoire très longue. À chaque fois dans l'histoire qu'on a voulu rendre la cuisine sérieuse, accessible, qu'on a voulu la démocratiser, on a créé ce que Bourdieu appelle une distinction de genre et de classe sociale en disant, ben en fait, c'est vraiment la phrase de Brillat Savarin, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, et en distinguant les femmes et les hommes qui ne savent pas manger, comme les enfants, qui ne savent pas cuisiner, qui font des choses de façon très quotidienne, sans apprendre à les faire et sans se perfectionner, sans se sophistiquer, sans se raffiner, alors que les hommes sont, eux, capables de sophistiquer cet art.
Et donc, du coup, la nourriture, peu à peu, est devenue une sorte de tabou pour les femmes ?
Moi, c'est mon hypothèse, c'est celle que j'essaye de développer que je cherche à développer dans Mangeuse. C'est l'idée que cette histoire-là, qui en fait exclut les femmes d'une expertise culinaire, les maintient dans un rapport infantile et primitif à la nourriture. et donc les culpabilisent en fait, présentent la nourriture et là et le fait de manger comme une honte coupable, qui est très judéo-chrétienne. Enfin, il y a vraiment énormément d'aspects qui sont mêlés à ça.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès, c'est le livre de notre invitée Lorraine Malka qui vient de paraître aux éditions Les Pérégrines. Ensemble, on zoome sur ce mot gourmette, le féminin de gourmet. Lorraine, il y a un point de départ à ce tabou des femmes avec la nourriture dont vous nous parliez. Vous le racontez dans votre livre, c'est Ève qui mange le fruit défendu, tout part de là.
Tout part de là et aussi de l'interprétation qu'en font les théologiens qui s'interrogent pour savoir est-ce que Ève est plus vulnérable face au péché de gourmandise qu'Adam et est-ce qu'elle est plus coupable qu'Adam d'avoir croqué la pomme, ce qui a mené l'humanité au désastre. Et alors les théologiens débattent, ils hésitent beaucoup, il y en a certains qui disent oui, la femme est perfide, Ève est vraiment, c'est vraiment elle qui est coupable, c'est une erreur de la création humaine. Et en fait, c'est Thomas d'Aquin qui essaye de prendre la défense comme il peut des femmes, mais de façon
à une époque où c'était pas facile.
Voilà, une époque où c'était pas facile, on va dire ça comme ça pour être gentil. Lui, ce qu'il dit, c'est certes, Ève a péché, mais c'est parce qu'elle a moins accès à la raison qu'Adam. À l'époque, c'est Aristote qui est vraiment le grand scientifique de référence, et lui, il dit que les femmes ont biologiquement, de façon vraiment naturelle, moins accès à la raison. Et donc, Thomas d'Aquin tranche en disant les femmes, il va falloir les réguler, il va falloir les surveiller parce qu'elles elles-mêmes n'ont pas suffisamment de raison pour lutter contre les passions, contrairement aux hommes.
Et donc ce cliché-là, qui est quand même dingue, il infuse jusqu'à nos jours et il persiste absolument encore aujourd'hui.
Il infuse jusqu'à nos jours et le phénomène, enfin vraiment la femme insatiable, incapable, ingouvernable, qui doit être gouvernée de l'extérieur parce qu'elle ne peut pas se réguler toute seule, est toujours très très présente comme un motif qui est constant de siècle en siècle dans l'histoire des représentations féminines jusqu'à nos jours, jusqu'à la publicité aujourd'hui, jusqu'au cinéma aujourd'hui. Il y en a énormément d'exemples.
Mais il y a des témoignages de femmes dans votre livre qui expliquent que si elles ont réussi, c'est parce qu'elles étaient prêtes depuis toute petite à jouer des coudes dans un milieu d'hommes. C'est quoi leur état d'esprit une fois qu'elles arrivent au sommet ?
En fait, ce qu'elles disent très souvent, c'est le cas d'ailleurs de Anne-Sophie Pic, dont vous allez parler, je crois, c'est que elles ont besoin de faire oublier le fait qu'elles soient des femmes. Et ce que moi j'observe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une tendance qui est plus récente, qui est justement de revendiquer ce qu'on appelle vraiment la revendication du stigmate, revendiquer cette condition féminine, comme voilà, on a été exclu de l'histoire et on en fait une force, on en fait un atout, au lieu de le faire oublier.
On le fait oublier ?
Alors, justement, Anne-Sophie Pic, je sais qu'elle dit ça dans le livre et le film de Véran Frediani et Estherelle Payani, À la recherche des femmes chefs. Elle dit que au départ, elle cherchait à faire oublier son statut de femme dans sa façon de cuisiner, dans sa façon d'appartenir à une brigade, dans son vocabulaire, dans sa façon de tenir sa brigade, etc. C'est un métier qui est justement, il y a cette distinction qui est très très masculiniste en fait.
Un métier de poigne.
Un métier de poigne, exactement. Et elle a appris, avec les retours qu'elle avait, le fait que les femmes s'inspirent de son parcours à elle, lui a fait prendre conscience que peut-être elle pouvait le revendiquer comme une force. Et le fait d'avoir été minorisée, d'avoir été infériorisée, en faire un atout.
Quentin.
Et justement, autre citation du livre, Hélène Darroze, chef multi-étoilé, juré de l'émission Top Chef sur M6, dans votre livre, elle dit on ne peut pas sélectionner un candidat pour son genre, la sous-représentation des femmes est compréhensible car ce métier demande certains choix de vie. C'est ce discours qu'on entend le plus dans le monde de la gastronomie pour expliquer le faible nombre de femmes chefs. C'est le choix de vie ?
C'est un aspect qui est souvent mis en valeur, alors qu'on sait très bien que historiquement il y a énormément de croyances qui appuient justement cette exclusion des femmes et ce vraiment en fait comme je le dis depuis l'Antiquité, qu'on a commencé à établir une cuisine sérieuse, à faire ce qu'on appelait à l'époque de la gastrologie ou de la gastrosophie, ce qui est devenu beaucoup plus tard la gastronomie, qui vraiment exclut les femmes de façon absolument explicite à chaque fois. Donc l'idée selon laquelle les femmes auraient, par manque de temps ou par manque... Voilà, ça c'est vraiment une croyance.
Alors les femmes sont présentes hein, dans le monde de la gastronomie, dans le secteur de la restauration. Il y a beaucoup de femmes. Le problème c'est que, visiblement, elles ont du mal à grimper les échelons pour arriver jusqu'au statut de chef.
Oui, les chiffres le montrent vraiment. Les femmes sont présentes et elles sont même présentes aussi. Les femmes étoilées sont présentes aussi dans l'histoire, mais elles sont oubliées, elles sont effacées et surtout elles ont du mal effectivement à monter les échelons, probablement pour plein de raisons, comme dans d'autres domaines, par manque de modèles, par manque de, les violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la cuisine n'aident pas. Il y a des enquêtes qui sont menées là-dessus. C'est très documenté. Donc il y a énormément de paramètres, de freins.
Lui, après avoir obtenu de très très beaux témoignages auprès de bijoutiers de la rue Lafayette, il a fini par se rendre à l'évidence. S'il voulait respecter notre thème du jour, il lui fallait tout reprendre à zéro. C'est Quentin, vrai. C'est donc au gré des rencontres, au hasard des rues, que vous êtes promené avec le livre de notre invité.
Et ma vadrouille du jour m'amène jusqu'à ce jeune homme qui, derrière ses lunettes rondes d'étudiant, découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen que l'on trouve dans votre livre, Lorraine Malka.
Gourmette. Les petits bijoux de baptême, les gourmettes.
C'est plutôt un mot qu'on a féminisé.
Ah, être gourmet et du coup être gourmette, c'est ça, ok. Moi quand on parle de femme gourmande, j'ai tout de suite l'image de Maïté en tête. Je pense à ma mamie, j'ai l'impression de voir Maïté, parce qu'elles viennent toutes les deux du sud-ouest, donc... Peut-être que Maïté est une gourmette.
C'est un cliché, mais c'est pas faux. Maïté a inspiré, je pense, des millions de femmes à se mettre derrière les fourneaux, mais souvent seulement chez elle, un programme télé pour la fameuse ménagère de moins de 50 ans ou de plus de 50 ans. Plus loin, cette retraitée me sourit en me voyant arrêter les gens. Pourquoi vous m'avez souri?
Parce que je vous entends souvent. J'imagine que c'est vous qu'on entend souvent sur France Inter.
Qui ça?
Votre prénom, alors. Ah. Alors, je sais
plus. Si vous n'avez pas mon prénom, ça marche pas.
Quentin! Trop bien.
Quel est votre prénom à vous?
Colette.
Vous venez d'où?
De Corse.
Alors qu'elle nous écoute d'habitude depuis la région de Corté, la voilà qui s'essaie à notre mot du jour.
Gourmette. Alors, ce sont des femmes qui sont des gourmets?
Très bonne réponse.
Ben oui, ben j'en fais partie.
Et je lui parle forcément des produits corses, la charcuterie, le fromage, de chèvre notamment.
Ah, délicieux, que si vous venez en Corse, je vous emmènerai chez la bergère qui fabrique ses fromages. Mais sinon, je ne sais pas, il y a par exemple un produit qui n'est peut-être pas très connu, qui s'appelle le Rhénos. C'est le nom d'un sommet en Corse, mais c'est aussi le nom d'une... C'est de la noisette broyée, grillée, à laquelle on ajoute du sel et on peut saupoudrer ça sur des salades, sur des avocats. Et ça, c'est très bon. Voilà.
Je prends le conseil?
Oui.
Bon retour en Corse.
Merci beaucoup.
À bientôt, Colette.
Au revoir.
Merci de nous écouter. Hein. Le Rhénos, Mathieu, vous êtes Corse.
Alors, non, je tombe de l'armoire. Je suis effectivement aussi un petit peu Corse. Alors pas de la région de Corté, mais je ne connais pas le Rhénos. Je vais me renseigner.
On goûtera l'été prochain.
Rapidement. Chez évidemment.
Vous. Évidemment. Alors, tous ensemble.
Vous êtes tous invités. Chaque été.
Je parle à ces deux copines maintenant, l'une en socio, l'autre en journalisme. Je leur parle des gourmettes.
Mais c'est gourmet de base. Ouais.
Ah, ok.
Elle découvre la quatrième de couverture de Mangeuse. Et l'une d'elles se souvient...
Ma mère, elle nous faisait à manger tous les trois. On est trois frères et sœurs à la maison. Et elle mangeait rarement avec nous, ou tout court d'ailleurs. Parce qu'on prépare à l'autre plutôt que de se servir soi-même. Alors que mon père, s'il fait à manger, croyez-moi, il mange.
Dès le départ, quand on est petit, on dit aux garçons de bien manger, de manger de la viande. Alors que pour les femmes, il faut faire plus attention. On leur dit toujours de faire attention à leur ligne, de faire du sport. Et qu'il faut rester bonne silhouette. Que ma grand-mère me disait toujours.
Plus loin sur un banc, il y a cette jeune femme, les boucles des cheveux impeccables, pantalon noir sur Doc Martens, grosse doudoune noire. Je peux m'asseoir à côté de vous?
Oui, bien sûr.
Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom?
Carole.
Carole, vous avez quel âge?
J'ai 27 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis mannequin.
Elle me parle du rapport à la nourriture dans son milieu, du mimétisme qui parfois mène à des troubles du comportement alimentaire.
Comme la boulimie, tout ça. Ça, c'est sûr que dans le milieu du mannequinat, c'est très très fréquent en fait. Moi j'ai des collègues qui ont dû arrêter parce qu'elles étaient anorexiques. Je suis dans plusieurs agences et j'en ai une par exemple qui dernièrement m'a appelée « Bon Carole, je sais qu'en ce moment ça va pas trop mais attention à pas trop manger ».
Vous êtes une mangeuse ou pas?
Alors moi j'adore manger. Mes plats préférés déjà, les lasagnes, le tiramisu, qu'est-ce que j'aime aussi? Le bœuf bourguignon. Alors le bœuf bourguignon c'est bon. La meilleure manière de le faire c'est quand c'est fait par une grand-mère. Hein. J'ai testé, il n'y a pas photo.
À travers la vitrine de ce traiteur, maintenant j'aperçois une salle d'atelier de cuisine, des plats magnifiques, des croquettes de canard, un tagine de poulet. Et cette jeune femme, Louise, tablier blanc, veste de cuisine, elle coordonne à la fois la cuisine et la salle. Dernière réaction sur...
Gourmette. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une fille gourmande? Les gourmettes? On m'a dit gourmande, mais c'est un peu sexuel, ça fait un peu bizarre. Et c'est souvent des hommes un peu vieux qui me disent « elle est gourmande ».
Et les mots ont leur importance, surtout dans le parcours d'une jeune femme en cuisine.
Alors au début, non, moi j'ai fait une petite formation en cuisine avant. Et je suis allée en stage là avec que des mecs en charcuterie, sous-sol, horrible, enfermée dans la chambre froide, enfermée dans le congèle. Truc hyper violent et de pas du tout ce que je disais de partage de convivialité de la nourriture. Et après, je suis arrivée ici, à un poste qui est beaucoup plus général, du coup, où je ne fais pas juste couper des échalotes. Et je suis avec tout le monde, et on parle de bouffe tous ensemble, tout le temps. Et on veut cuisiner pour que ce soit bon, pour que ce soit beau.
Intéressant de féminiser un mot et de le faire lire dans la rue par différentes générations qui ont des vies différentes. Et ce constat, il est difficile de revendiquer d'aimer manger lorsqu'on est une femme. Des injonctions à la minceur, aux mots qui sexualisent. Difficile de s'assumer au grand jour comme une parfaite gourmette.
Merci Quentin. Lorraine Malka, j'ai envie de rester sur le champ lexical de la cuisine. La gourmandise n'est pas perçue de la même façon si on parle d'un homme et d'une femme déjà.
Mais franchement, j'ai juste envie de réagir à ce micro-trottoir que je trouve fabuleux parce qu'il est vraiment... En fait, là où vous avez vraiment bien choisi le mot, c'est que c'est un... le mot gourmette, il y a vraiment une dimension politique en soi, ne serait-ce que dans ce mot. Il y a une force militante dans ce mot puisqu'il n'existe pas. Et que donc le simple fait de se revendiquer gourmette, c'est déjà subversif, c'est déjà militant. Et ça se voit en fait à travers votre micro-trottoir puisque vous avez tout de suite une constellation de sujets qui sont abordés, qui sont vraiment ceux de mon livre et ça va de, des personnes qui cuisinent professionnellement aux personnes qui sont sujettes aux troubles des conduites alimentaires, aux TCA, aux personnes qui sont associées à cette idée de érotiser, sexualiser de la gourmandise en disant moi on dit que je suis gourmande et il y a cette association, cette connotation très sexuelle. Donc je trouve que c'est assez fascinant vraiment ce micro-trottoir.
Justement quand je pense à gourmande, je pense à Maïté, elle ressemblait beaucoup à ma grand-mère, ça c'est ce que nous dit cet étudiant. La gourmande, c'est souvent la mamie. On se l'autorise à partir d'un certain âge dans l'imaginaire collectif.
Oui. Exactement, mais vous faites bien de préciser dans l'imaginaire collectif parce qu'on a vraiment maintenu cette idée-là, notamment à travers celles qu'on a appelées les mères lyonnaises, mais qui ne sont pas que lyonnaises. Eugénie Brasier, par exemple.
La mère Brasier,
qu'on appelait de façon quand même assez condescendante et pseudo-affective. Les mères, alors que ce sont des femmes chefs étoilées qui ont un talent fou, qui ont inspiré aujourd'hui les plus grands chefs.
Qui ont inventé des recettes incroyables.
Voilà, et qui ont inventé des recettes incroyables et qui sont évidemment associées à l'idée de mère nourricière.
Top Chef, c'est quand même une émission référence aujourd'hui en France quand on parle de cuisine. Il y a de plus en plus de candidates femmes, jamais la parité, ni la parité dans le jury d'ailleurs. Comment elle est perçue cette émission? Vous en avez parlé avec des gens pour votre livre?
Elle est perçue, oui, de façon assez... J'en ai pas spécialement parlé pour mon livre, non, parce que je me suis vraiment intéressée à... J'ai vraiment essayé de retracer une histoire en partant d'un postulat évident qu'aujourd'hui il y a une discrimination qui paraît complètement aberrante et qui s'exprime, qui se traduit notamment à travers Top Chef et à travers les émissions que vous venez de citer. Ouais.
Quentin, vous voulez ajouter quelque chose? Je vois que vous trépignez.
Non, je pensais que j'avais le temps. Carole, qui est mannequin, nous parle de l'agence avec laquelle elle travaille. Elle dit, l'agence dit de ne pas trop manger, elle sent qu'elle ne va pas bien. Qu'est-ce que ça raconte, ça?
Ça raconte quelque chose qui est extrêmement présent aujourd'hui et qui, à mon avis, est même assez sous-estimé, qui est effectivement le fait de... Moi, mon hypothèse de départ, c'est vraiment de dire que toutes les femmes ont un jour ou l'autre affaire à une anxiété alimentaire, un vrai tourment vis-à-vis de leur façon de se nourrir qui les amène, un jour ou l'autre, à flirter avec les troubles des conduites alimentaires.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Nos fidèles auditeurs le savent, notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière a trois passions. U2, les véhicules nécessitant une vignette critère 10 et la bonne chère. Au point de fonder le Club du Gras, un groupe inclusif puisqu'il accueille des petits, des grands, des barbus, des chauves, des roues. Ah non, pas des roues, me hurle-t-il en régie. Pas de roues et pas de bonnes femmes non plus, d'accord. Mais qui sommes-nous pour le blâmer puisque même le cinéma invisibilise les femmes dans leur rapport à la nourriture? Remettons donc l'église de la gourmette au centre du village de la culture avec ce Zoom Zoom Test spécial 7e art. Le principe est très simple. Je vous pitch des films ou des séries mettant en scène une gourmette, autrement dit une femme qui évolue dans le milieu de la gastronomie, et vous me donnez le nom de l'actrice qui l'incarne. Tout est clair, Quentin ?
Thomas Pesquet ?
Ça veut dire oui. Pour ce premier film, nous partons en 2009. Manon est la fille la plus populaire du lycée puisqu'elle danse sur...
Évidemment.
Quentin, lui, n'a pas d'amis puisqu'il fredonne.
Ah, je détestais.
Non, non, dans mon texte, tu adores.
Je suis sûr que
tu détestes a posteriori.
Ah, non,
à quelle époque
détestais.
C'était à fond. 2009, c'est également l'année où sort la comédie dramatique américaine Julie et Julia, basée sur deux histoires vraies, celle de la chef Julia Child, auteure d'un best-seller sur la cuisine française, et celle de Julie Powell, une blogueuse culinaire, qui décide de préparer en un an les 524 recettes du livre de Julia. Mais quelle célèbre actrice joue le rôle de la chef Julia Child ? Est-ce Suzanne Sarandon, Meryl Streep ou Glenn Close?
C'est
A.
Je vous donne l'opportunité d'une autre.
Bah
c'est B.
Bah non, même quand je vous aide.
Meryl Streep.
Là, effectivement, c'est catastrophique. Quentin, bonne réponse, mais je ne peux pas vous l'accorder. Non, c'était effectivement pas l'œuvre la
ça
plus connue.
Bah non, ça,
c'est pas la plus connue de la filmo de Meryl Streep, on va pas se mentir. Géante d'Hollywood, qui elle-même a certainement déjà oublié l'existence de ce film pâtissier. Meryl Streep, dont la prestation dans Le Diable s'habille en Prada a marqué un tournant dans la vie de Manon Mariani, qui ce jour-là s'est dit, mais en fait, c'est stylé d'être méchante. Depuis, elle n'a plus jamais souri. Sauf évidemment le week-end dernier à Amsterdam, mais uniquement par réaction au THC. Pour le prochain film, retour en France et plus précisément à l'Élysée. En effet, ce film de 2012, qui n'est pas 2012 de Roland Emmerich, hein, au grand désespoir de Quentin, qui aurait pu enfin en mettre une dedans, est librement inspiré de la vie de Daniel Mazet-Delpeche, chef privé au service de François Mitterrand, avec Jean d'Ormesson dans le rôle du président. Quentin, vous n'imitez pas Jean d'Ormesson ?
Absolument pas, non.
Ah oui, quand même, il y a quand même une tentative de votre part. Un demi-point. Recruté pour préparer les repas du président, cette périgourdine va s'imposer en dépit de la jalousie des cuisiniers officiels de l'Élysée. Et pour incarner le rôle principal, qui d'autre que Maïté, Valérie Bonneton ou Catherine Fraud?
C'est Catherine Fraud. Ouais.
Et c'est allé plus vite de quel côté?
Du côté de Quentin.
Du côté de Quentin. Bravo Quentin. Oui, c'est Catherine Fraud qui donne la réplique à Jean d'Ormesson dans Les Saveurs du Palais. Qui l'a vu autour de cette table?
Moi,
très bien. Ah, vous l'avez vu, heureusement. Enfin, quelqu'un de cultivé. C'est ce que je pensais, vous ne l'ont pas vu. Vous...
Je ne suis pas certain qu'on soit passé à grand chose.
C'était pas un mauvais film, c'était
Non, moi
c'était
j'ai un bon souvenir de ce film.
Vous dites n'importe quoi, vous ne connaissez rien en plus, vous dites n'importe quoi.
C'est pas parce qu'il n'a pas eu de César que c'était pas
bien. Exactement. Non, mais vous, en 2012, vous avez vu 2012, point barre. Mais attention, top. Direction les États-Unis en 2008. L'agent Cyril the Courier est pour la première fois au tableau d'honneur du FBI après avoir verbalisé une personne âgée qui n'avait pas de rétro sur son déambulateur. Un bon coup de taser au vieux qui faisait moins le malin. Oh. Mais 2008, c'est aussi l'année de la diffusion de la saison 5 de Desperate Housewives.
Ah,
tout le monde se souvient de la queen des tradwives, Brie Vanderkamp, qui est devenue une femme d'affaires. Vanderkamp, oui, je m'en fous. Qui est devenue une femme d'affaires. Un point en moins pour vous, Manon, pour m'avoir repris dans ma diction.
De rétablir la vérité.
Non, mais évidemment.
Faites juste.
Elle est devenue à ce moment-là, saison 5, femme d'affaires avisée grâce à son entreprise de traiteur. Qui s'appelle comment? Vous faites la maline. Alors voyons voir. Fairview Cupcakes. Brie Vanderkamp Catering Business ou Miss Vanderkamp's Old Fashioned Cooking?
C'est B.
C'est une bonne réponse. De Quentin, lui. Et c'est bien fait pour vous, Manon. Brie a fondé la Brie Vanderkamp Catering Business. La réponse C était un piège, a little trick, puisque c'était le titre du livre de Brie. Brie qui est interprétée par quelle actrice?
Marcia Cross.
Voilà, c'est bon.
Oui, mais hélas, pour le règlement du Zoom Tel, c'est vrai que Maître Enoki nous écoute en régie chaque après-midi, il est là. Et on doit, il faut laisser le présentateur de l'émission énoncer A, B, C. Pourquoi? Parce que c'est toujours finement écrit, avec des blagues dedans. Ouais. Et là, il y avait écrit Nicolette Sheridan, Felicity Huffman, Marcia Cross. Donc, un texte de qualité comme ça, avec tant de blagues.
On aurait ri à quel moment
À chaque moment. Donc, réponse C et aucun point. Oui. Évidemment, alors, là, il y a plus de monde que pour Meryl Streep. Hein. Pour une fois, je suis d'accord avec Cyril, votre génération de branlots, c'est foutu. Oh, mais attention, alerte navet. Ceci est un très gros navet. Si vous l'apercevez, surtout ne le regardez pas, ça peut être très dangereux. Nous sommes en 2007 et l'iconique Scott X, déjà oscarisé pour ses précédentes réalisations Freedom, Shine et La neige tombée sur les cèdres, présente le goût de la vie. Le pitch est en soi bouleversant. Kate est une jeune chef de talent qui règne sur les cuisines du prestigieux restaurant 22 Bleecker à Manhattan. L'existence de Kate, jusque-là centrée sur sa carrière, est bouleversée par le décès soudain de sa sœur, qui laisse derrière elle une fillette de 9 ans, Zoé. À votre avis, quelle célèbre actrice s'est retrouvée prise au piège de ce scénario quali? Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones ou Sandra Bullock?
B.
C'est Renée.
C'est René, vous la connaissez un peu, René. Une amie?
On s'appelle.
Très bien. C'était une bonne réponse de Manon Mariani, qui ne vous sauvera pas de la défaite dans ce quiz, puisque c'est Quentin qui l'emporte 3,5-0. Le demi-point étant attribué pour votre imitation magnifique de Jean d'Ormesson. Peut-être Jean d'O peut nous saluer.
Absolument.
Marcia Cross, j'aurais dû avoir 2 points.
C'est vrai, pour la rapidité. Ça va.
Allez, on est d'accord, Lorraine.
Ouais. Allez, reprenez.
Pourquoi reprenez. De gourmets et si peu de gourmettes? Zoom sur les femmes et la gastronomie avec notre invitée, la journaliste Lorraine Malka, qui sort Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès aux éditions Les Pérégrines. Je crois que vous aviez envie de revenir, Lorraine, sur les débuts, l'invention de la gastronomie. C'est là que les femmes ont été exclues d'emblée?
C'est là que ça se cristallise de la façon la plus flagrante. C'est pas le seul moment, il y en a plein des moments dans l'histoire, mais à ce moment-là, vraiment, dans les années 1780, quand Grimaud de la Reynière fonde ce qu'on va appeler après lui la gastronomie, il le fait de façon vraiment explicite pour ce qu'il appelle gracier le gourmand. Il veut plus que les gourmands soient associés aux gloutons rabelaisiens, voilà, un peu dégueulasses, qui mangent avec le ventre comme des animaux. Il veut que les gens mangent avec les papilles, que ce soit associé aux livres, à l'érudition. Et vraiment, il réussit son entreprise marketing de façon vraiment prodigieuse, puisqu'il crée la gastronomie. Et de façon très claire, il exclut les femmes pour deux raisons. D'abord parce que selon lui, elles ne sont pas capables de manger et avec leur palais, elles ne sont pas capables de sophistiquer leur palais. Elles ont des envies, des caprices, des envies de sucre, elles sont insatiables et elles sont incapables de se gouverner. Mais en plus, elles sont excitantes, appétissantes et donc elles risquent de déconcentrer les hommes.
Ah, les mangeurs!
Ah ben voilà.
Les gourmets.
Dans l'art très sérieux qui consiste à manger, parce qu'il n'y a vraiment rien de plus grave, il le dit lui-même, que de déconcentrer un homme terrible. Dans l'exercice de ses mâchoires, dit-il.
Justement, vous dites qu'il y a eu très souvent une hypersexualisation des femmes en train de manger. Vous parlez des influenceuses qui exagèrent ce phénomène.
Voilà, en fait, ça aussi, c'est quelque chose qui est récurrent dans l'histoire, justement lié à cette exclusion et au fait que les femmes soient laissées un peu sur le seuil de cette gloutonnerie qui est toujours associée. En fait, le ventre est près des parties génitales. Donc, il y a vraiment cette association très, très ancienne entre la luxure et la gourmandise. Et donc, les femmes sont toujours associées dans leur gourmandise à cette sexualisation. Et aujourd'hui, ce qui est assez frappant, c'est de voir ce qu'on appelle dans les luttes sociales le retournement, l'inversion du stigmate, le retournement du stigmate. Et notamment, donc moi, j'ai observé ça à travers différents exemples. Je vous en donne un. Il y a une fille qui s'appelle No Diet Club, que j'aime beaucoup. Son autre surnom, c'est Clo-Clo Bouffetro. Et en fait, elle surjoue justement cette sexualisation dans l'acte de manger pour la dénoncer à l'écran en face caméra.
Ça fait penser aussi à certaines pubs de cornets de glace ou de trucs qui sont hyper sexualisés, qui existent encore aujourd'hui. Il y a un compte Pépite Sexiste qui les dénonce assez souvent et on voit des trucs assez dingues. On se dit mais ça c'est 1972 et en fait non, c'est une pub d'aujourd'hui.
En fait, c'est absolument récent. Le CSA a déploré récemment la sexualisation des femmes qui mangent et le fait que les femmes soient toujours représentées de cette façon-là dans les publicités alimentaires, alors que les hommes sont des experts ou alors mangent des choses qui sont difficiles à apprécier, comme la moutarde, le café, toutes ces choses-là. Les femmes, elles, jouissent, ont des orgasmes en mangeant des cônes glacés.
Oui, et là, arrive assez souvent, je crois.
voilà,
évidemment,
bien sûr.
C'est bien connu.
Ne regardez pas.
Vous parlez d'un autre aspect de cette misogynie dans l'univers de la cuisine, c'est la critique gastronomique. Alors là, c'est vrai qu'une femme qui parle et qui juge la cuisine des hommes, c'est le tabou ultime, évidemment.
Bah évidemment, là on est dans le commentaire qui n'a pas lieu d'être et les femmes le ressentent très fort. Les femmes que j'ai interrogées, les chroniqueuses culinaires actuelles, ressentent qu'à partir du moment où il y a des hommes à table, elles ne peuvent pas vraiment s'exprimer. Il y a une sorte d'intériorisation de cette infériorisation.
Le 31 mars prochain, le Michelin va dévoiler son nouveau palmarès. L'an dernier, sur les 62 nouveaux étoilés, seuls 7 étaient des femmes.
6, je crois.
6 ouais. Est-ce que, comme en politique, il faudrait installer des quotas?
Alors, là-dessus, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus. Les quotas, je pense qu'il faudrait vraiment retourner les choses de façon extrêmement profonde et que ça demande du temps. Alors, pourquoi pas, si ça doit passer par des quotas dans un premier temps, effectivement.
Mais c'est ça.
Pourquoi pas.
Un peu de discrimination positive.
Voilà, un peu de discrimination positive de façon provisoire, mais je pense qu'il y a vraiment un travail de fond à faire pour en fait prendre conscience de cette histoire.
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. Le sauté de veau à la weed et son plat signature. Manon, l'heure de découvrir la personne à suivre.
Je vous présente Anne-Sophie Pic. Elle a 55 ans, elle est française et c'est la seule chef triplement étoilée en France avec son établissement à Valence, le restaurant pique.
Et si ça ne tenait qu'à moi, elle serait la seule chef de France à avoir 4 étoiles.
Très bien, on espère qu'elle nous écoute. En quelques années, Anne-Sophie Pic a développé un véritable empire gastronomique à travers le monde. 3 restaurants en France, dont la Dame de Pic à Paris, une étoile au Michelin. Restaurant qu'elle a ouvert sous le même nom à Dubaï, Londres, Megève et Singapour. Elle a aussi le Beau Rivage Palace en Suisse, doublement étoilé. Prochaine destination, Mathieu. Oui. Avec ses lunettes iconiques, oui je le dis, Anne-Sophie Pic est devenue une chef de référence dans le monde entier. Le grand public français la connaît aussi pour ses apparitions dans Top Chef. Et pourtant, elle aurait pu suivre une toute autre trajectoire, car même si elle est l'héritière d'une lignée de grands chefs, son grand-père André Pic et son père Jacques Pic, qui ont fait briller le restaurant familial à Valence, au moment de ses études, elle décide de s'orienter vers une école de commerce. Elle avait des envies de liberté, elle qui a vécu durant toute son enfance au-dessus du restaurant familial, qui connaissait les cuisines comme personne, les odeurs des plats, les horaires des services. Mais un événement va la contraindre à revenir à Valence, la mort de son père. C'est son frère qui reprend le restaurant, c'est lui l'héritier, l'homme de la famille. Anne-Sophie Pic arrive dans une ambiance compliquée. Les chefs sont là depuis longtemps, son frère ne veut pas investir dans d'autres établissements. Elle subit aussi la misogynie de ce milieu très masculin, on l'a dit, on est dans les années 90. Et la gastronomie ne ressemble pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. Mais à force de persévérance, elle arrive à ses fins. Son frère lâche l'entreprise familiale et c'est elle qui prend la relève. Elle apprend la cuisine sur le tas, mais le talent familial est là. En 2007, elle obtient sa 3e étoile Michelin, consacrant son style unique, une cuisine tout en finesse, jouant sur l'amertume, les textures, les associations, ses plats fétiches, sa Saint-Jacques au caviar et au lait fumé, et son célèbre berlingot aux chèvres et à la bergamote. Je ne sais pas si vous les avez goûtés, Mathieu. Anne-Sophie Pic a inspiré toute une génération de femmes chefs et a même créé une école à Toulon pour former les futurs chefs. Dans la lignée de sa famille, elle fait aussi de la transmission pour faire rêver les jeunes générations.
Merci Manon pour ce beau voyage gustatif. Lorraine Malka, est-ce qu'Anne-Sophie Pic, c'est une vraie référence pour celle qu'on appelle donc aujourd'hui les gourmettes, ou est-ce que c'est le contre-exemple, c'est l'arbre qui cache la forêt du machisme en gastronomie?
Je pense qu'au départ, c'était un contre-exemple, et elle-même le dit, que comme je le disais tout à l'heure, elle ne prenait pas vraiment conscience de sa... En tout cas, elle ne revendiquait pas sa condition féminine, et au contraire, elle cherchait plutôt à l'effacer, à la cacher pour appartenir, pour s'assimiler un peu à ce milieu très masculin. Et en fait, elle en a fait une revendication en se rendant compte qu'elle inspirait les femmes chefs. Et je crois que c'est vraiment ce cheminement-là qu'elle a fait et que je trouve très intéressant en prise de conscience féministe.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Mais qui c'est cette Hélène Vin, Blue Sky Social? Telle est la question que se pose depuis hier le mari de Pierre Courade, depuis donc qu'il a réalisé que Pierre suivait sur Blue Sky une certaine Hélène Vin, Blue Sky, un compte affichant zéro poste. Mais en revanche, la photo, elle est chante d'une jeune femme blonde dotée d'une opulente poitrine, le genre de faux compte que même Cyril s'est détecté. Un monde qui s'effondre donc pour le mari de Pierre qui découvre simultanément qu'il n'est pas gay et surtout qu'il est con. Je remercie mon auteur Gérald Darnaud qui a relevé ce fallo-back étonnant alors qu'il était lui-même en train de bloquer Hélène Blue Sky 20. Pierre, je vous laisserai régler ça sur l'oreiller. En attendant, vous allez nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur les gourmettes en une minute chrono. Si
bon,
vous y arrivez.
Écoutez, je vais faire comme Cyril. Je vais demander directement à notre invité de résumer tout ce qu'elle s'est dit, tout ce qu'elle a dit en une heure. Une émission qui partait mal, visiblement. Quentin qui pensait qu'on allait parler évidemment de son bijou favori. Eh bien non, on a parlé cet après-midi des gourmettes, le féminin de gourmet. À votre décharge, Quentin, ce mot n'existe pas. Il a été inventé par notre invité, Lorraine Malka, spécialiste de la gastronomie et de féminisme. C'est probablement le paradoxe ultime du machisme. Même cantonnées au fourneau, les femmes sont invisibilisées dans l'univers de la cuisine. On différencie toujours la popote des femmes et la grande cuisine des créateurs. De la même manière, le gourmet n'est que masculin, alors qu'on retrouve les féminins gourmandes ou gloutonnes, des termes plus péjoratifs. Pour les hommes, les femmes n'ont pas de palais. Pire, elles perturbent le gourmet. C'est ainsi que, d'après notre invité, pour les femmes exclues de la gastronomie, la nourriture est devenue tabou. Les femmes sont infantilisées, elles développent une honte coupable très judéo-chrétienne, issue du péché originel d'Ève qui mangea le fruit défendu. Ajoutez à cela le manque de modèles chefs de ZFE et les violences sexistes et sexuelles dans le monde de la gastronomie. On comprend mieux que le chemin est toujours périlleux pour les femmes dans le monde de la cuisine. Le tabou ultime, évidemment, les femmes critiques gastronomiques. Comment jugent-elles des hommes? Comment osent-elles? À la rédaction, nous avons aussi des gourmettes, pour le meilleur et pour le pire.
l'empire, surtout pour le pire. Manon, en ce moment, tente d'habituer son estomac à la cuisine épicée du Mexique en vue de ses vacances estivales. Ouais, ouais. C'est une bonne nouvelle pour le rayonnement des frijoles, mais une mauvaise pour les toilettes de France Inter.
Oh, ça, c'est vraiment chic. Cette chute est tellement chic. C'est tout vous, Pierre Courage. Oh, allez, allez retrouver Hélène Vin, Blue Sky, et débrouillez-vous avec ça. Les amis, Rosa Burstein est avec nous, je vous l'ai dit, beaucoup plus chic. Rosa, j'ai une question me taraude. Est-ce que vous êtes du style à croquer dans un gros burger pour la story, puis à le reposer intact dans son assiette?
Mais pas du tout, Mathieu. Le burger, je le démonte. Ah. Mes copines me dépriment quand elles se vantent d'avoir arrêté le sucre et que ça a changé leur vie. Tu es claire de notaire, Camille. Ta vie, c'est de la merde, avec ou sans sucre. Moi, ça fait plusieurs mois que j'ai arrêté de me fliquer sur la bouffe depuis que j'ai cessé d'aller voir une nutritionniste gourou, docteur Sandrine Marchand. C'est évidemment pas son vrai nom, mais j'ai jamais eu aussi peur de parler de quelqu'un dans une chronique. J'ai jamais eu aussi peur de quelqu'un tout court. En plus, elle a son cabinet pas loin dans le 16e. Mais bon, elle écoute pas France Inter. Il me semble qu'elle était plus branchée CNews. Je suis pas sûre à 100%, mais elle avait quand même encadré un autographe de Pascal Praud. J'avais jamais rencontré quelqu'un dire autant de mal des SDF. Enfin, elle disait les clochards. Elle répétait, voilà des gens qui n'ont aucune détermination. Les clochards. Pire, les clochards gros. Eux, ils font la manche pour picoler. Au moins, les clochards toxicaux, ils ont la ligne. J'avais vu avant des tonnes de naturopathes, bobos, chamans, mais ça n'avait pas marché. Les tisanes au pissenlit, la respiration en pleine conscience ou les bains de pieds dans la sueur de yak. J'étais pas moins boulimique, mais j'avais les pieds tout doux. Donc, une copine m'avait donné le numéro de Sandrine. Tu verras, avec elle, c'est comme à l'armée. C'était vrai. Mais l'armée, à Nice, Sandrine était blonde, peroxydée, on l'aurait dit tout droit sortie d'un salon de toilettage, toujours habillée en blanc, le visage entièrement refait, très bronzé, la bouche taille XXL, mais le petit corps XS, le style de Cyril Lacarrière. Son cabinet était celui de Cruella, avec des fauteuils en cuir noir, de la moquette blanche et des tapis léopard. Peut-être qu'il servait aussi à des tournages de films porno, mais en attendant, c'est moi qui devais faire gaffe à ce que je passais à la casserole. Au programme, deux jours full prot, deux jours prot légumes et deux jours konjac légumes. Oh. Les pâtes de konjac, ce sont des pâtes transparentes à zéro calorie qui sont à la pâte ce que François Bayrou est au charisme. En fait, ça ressemble au régime du camp et le point commun, c'était bien le camp. Il fallait monter sur la balance et donner à Sandrine un chiffre inférieur à celui de la dernière séance. Sinon, elle te défonçait en ordonnant à son kleps « Attaque le bourrelet de la dame !» Ça fera 150 euros. Mais si on avait perdu le bourrelet, là, Sandrine s'adoucissait, elle passait sa petite sonde sur des points stratégiques du corps et faisait son coaching hypnotique. Loi de l'attraction, mademoiselle Burstein, le positif attire le positif. Si vous contrôlez votre poids, vous contrôlez votre vie. Être mince est la chose la plus importante pour une femme. Si vous êtes mince, vous serez heureuse. Si vous grossissez, vous serez malheureuse. Si vous épousez un homme riche, vous serez heureuse. Si vous épousez un homme pauvre, vous serez malheureuse. Je lui avais précisé que mon mec était très pauvre. Alors vous avez intérêt à être vraiment très très mince. Ma délivrance, ça a été l'humiliation de trop. En fait, il fallait venir à jeun chez Sandrine, ne pas boire le matin pour être la plus légère possible sur la balance. Mais moi, je m'autorisais quand même souvent un petit café, un petit verre d'eau au réveil, hydratation quoi. Or, Sandrine avait censuré l'accès des toilettes à ses clientes parce que ça la dégoûtait, je cite, le caca de grosse. Mais une fois, j'avais la vessie pleine et je me suis fait pipi dessus dans le couloir de Sandrine. La moquette blanche de vin jaune, j'avais même pas de mouchoir, je me disais mais je vais mettre l'urine quelque part, mais il n'y avait pas de pot de plante. Donc ça atterrit sur mon pantalon. Résultat, je le frottais pour que ça sèche, je soufflais, mais ça collait quand d'un coup, entrez Madame Burstein. Devant elle, j'avais les jambes humides, la culotte mouillée. Je me demandais si elle avait compris ou senti. Je me suis enfuie, je suis jamais revenue. Et depuis, je laisse libre cours à ma gourmandise. J'ai accepté que le sucre, c'était ma vie, que je préférais ça au sexe. Pour mouiller ma culotte, je préfère largement les pavlovas, les mousses au chocolat, les moelleux, les mi-cuits, les profiteroles, les banana bread, les carottes et les cheesecakes, les cookies, les pancakes, les glaces à la pistache, les tartelettes aux abricots, aux fraises, aux framboises, les mangos sticky rice, les mochi verts matcha, les pains aux sésames noirs coulants. Bientôt le mois d'avril, Pâques, le printemps et les œufs au chocolat.
Merci Rosa, j'ai failli avoir un orgasme. Merci Rosa, beaucoup. La semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Et je rappelle que vous jouez en ce moment votre nouveau spectacle Dédoublé, plus que 6 dates pour vous voir en mars à Paris au Théâtre de l'Œuvre. Et ensuite c'est la tournée avec Lyon, Toulon, Marseille, pas Nice visiblement, je sais pas, toutes les dates sont sur votre site. Merci Lorraine Malka. Merci. De nous avoir présenté votre livre Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès, pour connaître ces fameuses gourmettes. Zoom Zoom Zen.